Europa Voice numéro 84. Et comme à chaque épisode, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, eh bien, ouais, on n'aurait pas forcément pu le prévoir, mais aujourd'hui, dans Europa Voice, on va parler eh bien, de l'Afghanistan. C'est vrai que c'est arrivé très rapidement sur le devant de la scène, comme ça, avec le retrait américain plutôt rapide. Et j'allais tenter de dire même peut-être plutôt brouillon. On va décrypter un peu tout ça, mais surtout le rôle de l'Europe dans cela. Expliquez-nous un petit peu ce que l'Europe peut faire, comment l'Europe peut aider justement l'Afghanistan et ce que ça veut dire pour le bloc européen.
Alors c'est effectivement, Christophe, d'abord c'est important de le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice, c'est effectivement un sujet qui est arrivé de manière assez impromptue hein, sur le devant de la scène internationale. Personne n'anticipait l'arrivée ou la reprise aussi rapide du pouvoir par le régime taliban. Du côté européen, je vais dire, Christophe, on a deux problématiques par rapport au retrait américain et donc par rapport au retour des talibans au pouvoir. D'abord, pour les Européens, c'est effectivement une sorte de piège hein, qui leur est tendu parce que ça va avoir des conséquences majeures pour l'Europe et pour ses alliés sur le continent européen, pour l'Union européenne et pour ses alliés sur le continent européen, parce que effectivement, en termes de flux migratoires, mais aussi tout simplement de gestion, c'est le voisin européen qui va devoir être et qui va être en première ligne. Par rapport à l'Afghanistan et moins les États-Unis. Donc ça, c'est le premier aspect, hein, c'est que l'Europe a quand même l'impression, les dirigeants européens ont l'impression d'avoir été, d'une certaine façon, piégés par ce retrait américain anticipé et ce retour éclair des talibans au pouvoir. Le deuxième aspect, Christophe, c'est une décision ou plutôt une position au sein de l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire que on a envie pour les dirigeants européens, effectivement, de faire preuve d'un certain pragmatisme par rapport à ce retour au pouvoir des talibans, à plusieurs niveaux. Un pragmatisme d'abord dans la relation qu'il va falloir tisser avec le régime en place. Il y a une phrase que je trouve très intéressante, c'est celle du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a dit « Les talibans ont gagné la guerre, je le cite, donc nous devons parler avec eux ». Vous voyez, on est vraiment dans de la réelle politique, dans du pragmatisme, donc c'est traité avec le nouveau régime en place à Kaboul. Et puis la deuxième problématique, c'est effectivement éviter pour l'Union européenne d'avoir, j'allais dire, une gestion aussi calamiteuse, aussi brouillonne qu'on avait pu voir en 2015 avec la crise migratoire due à la guerre en Syrie. Et donc, vous voyez, on a ces deux aspects là pour les Européens, pour répondre à notre première question. On a à la fois cet état de fait par rapport au retrait américain anticipé, maintenant que c'est fait, ce pragmatisme à mettre en œuvre à la fois vis-à-vis du régime taliban et à la fois vis-à-vis de la gestion migratoire qui va devoir se mettre en place dans les prochains mois.
Alors, on sait que c'est une crise qui a duré plus de 20 ans. Hein. Ça, c'était le total de la guerre. Hein. C'est au lendemain du 11 septembre donc, que tout ça avait débuté avec les Américains. Le rôle des Britanniques là-dedans est assez intéressant parce que les Britanniques étaient membres de l'Union européenne quand ils ont pris part et ils ont aidé leurs grands amis ou l'allié américain. Et on peut dire que les Britanniques étaient la tête de proue pour l'Union européenne. Le rôle des Britanniques aujourd'hui qui ne sont plus dans l'Union européenne, est-ce qu'ils jouent leur rôle entre guillemets, et je vais pour faire un mauvais mot, mais le service après-vente, je veux dire, est-ce que les Britanniques vont avoir un rôle à jouer dans l'après-crise afghane et de peut-être de faire le pont entre les Américains et les Européens?
Alors, ce qui est sûr, Christophe, par rapport à la position britannique, c'est que évidemment, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dû réagir aussi à ce retrait américain anticipé. Il a d'ailleurs dès lundi dernier présidé une réunion interministérielle de crise. Enfin, en tout cas, il en a présidé plusieurs. C'était la troisième en à peine 4 jours. Ce que veut en fait Boris Johnson, c'est présenter avec ses ex camarades de l'Union européenne un front uni, une position commune. L'idée de Boris Johnson, comme l'idée de tous les dirigeants européens, c'est d'éviter que l'Afghanistan, d'une certaine façon, redevienne un terreau du terrorisme. Ce qui fait aussi pas de doute, et ça c'est intéressant de le voir par rapport à la position du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, hein, qu'on a vu il y a quelques instants, où on avait vraiment une position très réaliste, pragmatique de la réelle politique. Pour les Britanniques, pour le ministre de la Défense Ben Wallace, je le cite, c'est un échec de la communauté internationale. Donc, vous voyez, on va devoir faire preuve de pragmatique aussi pour les Britanniques, mais on est conscient que cette période de 20 ans, qui s'achève par ce retrait anticipé des Américains, est un échec pour la communauté internationale. Donc maintenant, pour Boris Johnson, pour les Britanniques, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on évite de recréer un nouveau foyer du terrorisme à un moment notamment où on n'a pas vraiment besoin de ça, où on a aussi plusieurs fronts, c'est important le président, on a encore plusieurs fronts qui sont ouverts chez les voisins européens. Et d'ailleurs, sur ces fronts-là, ce qui est intéressant, c'est que la France a bien fait de préciser qu'elle a un rôle beaucoup moins actif sur le terrain militaire qu'elle ne l'a, par exemple, au Sahel, alors que pour les Anglais, enfin pour les Britanniques et pour les Américains, on avait une présence et un rôle opérationnel beaucoup plus important. Donc, on est, pour les Britanniques, là, j'allais dire, peut-être une des premières fois après le Brexit, assez main dans la main, assez unis avec les voisins et collègues européens.
Alors, si on revient sur la notion des flux migratoires que vous mentionniez il y a quelques temps, Emmanuel Macron a eu une phrase qui a quand même fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre en France, c'était sur ces flux migratoires irréguliers. Est-ce qu'on sait comment ça a été pris en fait ? Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire par les flux migratoires irréguliers ? Est-ce qu'on peut expliquer un peu cette phrase ?
Alors, effectivement, on a eu une allocution du président de la République Emmanuel Macron lundi 16 août aussi, au même moment où Boris Johnson réunissait une troisième réunion de crise interministérielle. Et il a prononcé, effectivement, Emmanuel Macron, cette phrase. Il a parlé, en fait, pour commenter ce qui se passait sur le terrain afghan et pour expliquer un petit peu ce que l'Union européenne et la France allaient devoir faire. Il a évoqué d'éventuels flux migratoires irréguliers importants. Alors évidemment, tout de suite, et c'est aussi à cause de cette société de l'immédiateté finalement et de l'accès à l'information à tout moment sur les réseaux sociaux, par rapport aux images qu'on voyait sur le terrain du retour des talibans, de l'effacement des femmes, de la peur des gens, des images terribles aussi des gens entassés aux aéroports, forcément ces mots d'Emmanuel Macron ont été mal accueilli, ou en tout cas l'opinion a trouvé que ces mots étaient maladroits. Emmanuel Macron a vite compris ça et il a corrigé le tir et il a dit à l'AFP rapidement après cette première conférence de presse, il a dit: nous n'avons pas du tout à rougir car nous sommes l'un des pays qui accueille le plus d'Afghans et qui leur donne le plus de protection. L'idée d'Emmanuel Macron quand il a prononcé cette phrase et qu'il a insisté sur le fait de se protéger contre les flux migratoires irréguliers importants, c'était de dire que deux choses. D'abord, qu'il fallait que ce soit quelque chose qui soit géré au niveau de l'Union européenne, avec la difficulté, Christophe, qu'en fait, que, par exemple, pour l'obtention des visas, si vous voulez, l'Union européenne n'a pas de capacité pour le faire. C'est-à-dire que ça doit être une répartition entre les pays. Et on a notamment, au sein de l'Union européenne, l'Espagne qui s'est prononcée pour accueillir une population plus grande et après avoir une répartition avec d'autres pays, d'autres voisins européens. C'est un peu, j'allais dire, dans une autre mesure, ce que les Européens essayent de faire à Lampedusa avec l'Italie. C'est-à-dire que c'est évidemment l'Italie qui va les accueillir et après, les Européens doivent se coordonner entre eux pour répartir ces migrants. Mais là, l'idée d'Emmanuel Macron, elle est double. Donc, c'est d'abord que ça doit être un effort européen, mais surtout que ça doit passer par un processus où on va devoir accorder à ces immigrants, à ces demandeurs d'asile d'ailleurs plus exactement, on va devoir leur accorder des papiers et les mettre dans un processus justement d'immigration, j'allais dire ordonné, coordonné par les États. Donc c'est vraiment ça qu'a voulu dire le président de la République, mais encore une fois ça a été assez maladroit. Pour être très franc, Christophe, je pense pas que ça va lui être reproché très longtemps. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est déjà passé à autre chose, mais encore une fois, le spectre qu'il y a au-dessus de tout ça, c'est évidemment les flux migratoires à la suite de la guerre en Syrie en 2015, où on avait l'impression qu'on n'avait pas d'Europe politique, qu'on n'avait pas une entité politique capable d'organiser à sa hauteur, avec une répartition cohérente entre les membres, ben, un accueil de ceux qui demandaient l'asile en France.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est certain qu'on va continuer à parler de ce sujet dans les semaines à venir, dans les épisodes en tout cas d'Europa Voice à venir, parce que l'Europe est toujours en train de définir justement cette politique et cette approche par rapport à la problématique et à la crise en Afghanistan. Allez, croyez-le ou non, on va reparler du Covid. Et oui, le Covid est toujours là, on le sait, en Australie. Il est aussi toujours présent en France, mais peut-être un petit peu moindre. Est-ce qu'on peut parler de ce que peut apporter ou ne pas apporter le Covid dans le débat de la présidentielle qui arrive assez rapidement en France? Comment le Covid, justement, va s'immiscer dans ce débat, puisque il y a gros débat autour du pass vaccinal. Enfin, il y a plein de points où le Covid va forcément s'intégrer dans la campagne présidentielle en France.
Oui, Christophe, alors l'idée, c'est comme on est encore dans les derniers jours de vacances en Europe et en France, c'est d'essayer d'un peu d'anticiper et de voir quelle place va avoir la crise sanitaire et le Covid dans les prochains mois en France, qui vont être cruciaux, parce qu'on va rentrer, normalement, on rentre dans la dernière rentrée de septembre avant l'élection présidentielle. Ce qui est quasiment sûr, en tout cas, c'est que l'ombre du Covid planera encore jusqu'à l'élection présidentielle et qu'on risque d'avoir une élection présidentielle avec en toile de fond, comme on l'a eu aux dernières élections intermédiaires, aux régionales par exemple, ce Covid, cette crise sanitaire qui va un petit peu brouiller tous les débats. Le signe le plus vérifié de cette crise sanitaire qui va encore s'immiscer dans les débats, c'est une intervention d'Emmanuel Macron cet été qui lui-même a précisé qu'on en avait encore pour quelques mois en 2021, voire en 2022, à devoir parler du Covid. Alors, il y avait effectivement un élément de réalité, hein, le président de la République a raison de mettre le point sur ce sujet qui va concerner en prime abord la rentrée scolaire et les dispositifs à l'école, mais c'est aussi d'un point de vue communication politique, Christophe, assez astucieux, parce qu'on sait bien qu'Emmanuel Macron, il va essayer d'être vu comme celui qui est à la tête de la gestion de la crise sanitaire, avec pour l'instant, il est vrai, un élément plutôt positif, c'est le taux important de vaccination en France, et donc on a un président de la République, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, mais qui va vouloir, après une première partie de gestion de la crise plutôt ratée, vouloir surfer sur une mise en place des dispositifs vaccinaux plutôt bonne en France, si on la compare à d'autres voisins européens ou à d'autres voisins même plus insulaires, pour ne pas citer l'Australie, dans le monde.
Oui, tout à fait. C'est un sujet qui pique, hein, ça, forcément, en Australie. Est-ce qu'on sait si cette crise, justement, du Covid a déjà des répercussions d'un point de vue politique? Je parle des élections en Europe. Est-ce qu'il y a des élections qui vont se passer avant les élections présidentielles? Et est-ce que, justement, on pense, par exemple, à l'Allemagne, le changement à la chancellerie allemande. Est-ce que vous pensez, à votre avis, vous, Nathanaël, que le Covid va aussi s'immiscer dans ces discussions-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont déjà un peu tourné la page plus que d'autres?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments, Christophe, comme souvent dans vos questions. C'est que d'abord, j'espère, à titre personnel, que les différents dirigeants européens auront appris des premières erreurs d'élections passées en temps de forte épidémie. Plusieurs éléments. D'abord, les dispositifs à mettre en place, c'est-à-dire que quand on a organisé une élection, quelle qu'elle soit, que ce soit présidentielle, législative, une élection intermédiaire, on s'adapte aussi à la réalité du terrain. Et donc, si on est en pleine pandémie Covid, mettre en place les signalétiques, les distances, etc. nécessaires. Ça, c'est un premier élément qui peut paraître assez anodin, mais la plupart des dirigeants européens, je l'espère, auront appris de leurs premières erreurs. Le deuxième élément, Christophe, c'est par rapport au taux de participation. On l'a vu, hein, en France, notamment au moment des régionales, alors qu'on était encore dans cet épisode Covid, ça a été beaucoup critiqué parce qu'on a eu des élections qui sont toujours, qui sont tenues, et on a eu un taux de participation très faible, si mes souvenirs sont bons, 33% au premier tour, qui est un des taux de participation les plus faibles à des élections intermédiaires. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque situation, dans chaque pays à un moment T, on a intérêt, d'abord pour le système démocratique, à ce qu'il y ait une participation la plus importante possible, donc c'est un élément à prendre en compte. Le troisième élément, Christophe, et là je recentre sur le cadre français, c'est même avant d'avoir ces élections présidentielles, on voit bien que le Covid est en train un petit peu même de brouiller l'étape avant les présidentielles, c'est-à-dire l'étape de désignation des candidats. On a des candidats, on a des primaires, on ne sait pas encore d'ailleurs qui va aller à ces primaires, où les candidats ne sont pas encore totalement déclarés. On a l'impression qu'ils attendent d'avoir finalement le go que ces élections présidentielles vont bien avoir lieu. On a des primaires qui sont censées être organisées, mais on a des nombres d'inscrits extrêmement faibles, probablement aussi à cause de toute cette ambiance un petit peu mortifère qui plane à propos à cause du Covid. Je pense notamment à la primaire écologiste où pour l'instant on a simplement 15 000 inscrits pour une primaire qui est prévue fin septembre. Vous imaginez bien que c'est absolument pas significatif et ça va plus faire de mal que de bien en termes de légitimité pour un candidat vert. Donc vous voyez, avant même la présidentielle, on voit encore que dans les différents camps, on attend de voir comment traiter la question du Covid et comment aussi se positionner. Pour l'instant, il faut le dire, hein, on est très timide hein, chez les autres camps, chez les socialistes, chez les républicains, par rapport à la gestion sanitaire. On a l'impression qu'on laisse Emmanuel Macron se casser les dents pour après intervenir. Le risque de ça, Christophe, encore une fois, c'est que on est sur une phase qui est plutôt positive, qui est plutôt bonne pour le président de la République avec la mise en place des dispositifs vaccinaux. Et donc, le risque, c'est de laisser aussi trop d'avance au candidat Macron qui sera impossible à rattraper pour les autres candidats. Donc, une rentrée qui va être intéressante et je pense qu'un des signaux forts, ce sera la rentrée scolaire et de voir comment la rentrée scolaire et l'éducation va être gérée par le président de la République pour que les autres candidats et les autres partis sortent ou non du bois.
Absolument. Affaire à suivre. Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup, Christophe.